France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Son œuvre qu'il qualifie de philosophie-fiction a été traduite dans plus de 30 langues. Après les fourmis, les dieux et les micros humains, le romancier nous plonge dans le monde onirique des rêves. Le sixième sommeil, c'est le titre de son nouveau roman, sur ce qu'on fait de plus dans une vie pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire dormir. Ce midi, on ne va pas s'endormir évidemment avec lui. Bonjour Bernard Verber.
Bonjour.
À midi 55, c'est que de la télé, ce sera avec Patrice Gascoin pour s'endormir devant la télé ce
pas
soir.
Pas du tout, je vais essayer même de vous réveiller, peut-être même de vous faire fredonner. Par exemple, les copains d'abord ou les amoureux des bancs publics.
Ah bah ça, on va pas dormir avec ça.
Place à Georges Brassens ce soir sur France 3. Puis je vais essayer de vous faire rire aussi avec C'est quand Lou, de retour ce soir sur TF1.
À midi 40, Allô les stars, lui, il va nous faire rire, c'est sûr, c'est Thierry Garcia qui nous ramène aujourd'hui.
Bonjour, c'est François Bayerou. Voilà. Moi, pour Bernard Verber, je suis chaud patate. Ouais, parce qu'il est pas bête, votre invité. Ah oui, pour être sûr de ne pas gagner de prix littéraire, il sort ses livres un mois après les autres.
Ouais, effectivement, c'est vrai. Et alors ?
Et alors, je vais faire comme lui. Pour les élections de 2017, je vais me présenter en 2018. Comme ça, comme d'habitude, je ne serai pas élu, mais au moins, je ne serai pas ridicule avec mon score minable. Pas bête.
Très bien, pas bête. Bravo. Du tout. À 13h, nous serons avec la chanteuse Ina Modja qui va vous faire voyager jusqu'à Bamako avec un nouvel album qui est absolument splendide. France Bleu Midi ensemble, on est heureux de vous retrouver en ce lundi. C'est parti et c'est jusqu'à 1h30. Donc Bernard Verber, un nouveau roman qui s'appelle Le Sixième Sommeil aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire de Caroline Klein. Elle est médecin-chercheuse dans le domaine du sommeil. Elle va se lancer dans un projet secret qui va intriguer tout son entourage. Ce projet secret a un rapport avec le sixième sommeil qui n'est pas reconnu scientifiquement, mais elle est persuadée que ce sixième sommeil existe. En fait, elle transmet sa passion à son fils, Jacques, qui un jour rencontre dans son sommeil l'homme qu'il sera lui-même 20 ans plus tard grâce à une machine qui permet le voyage dans le temps. Vous êtes trop dissipés les garçons là. Répétez l'histoire, allez.
C'est l'histoire de Bonne Nuit les Petits, c'est ça?
Non, mais c'est compliqué, mais c'est super, c'est extraordinaire.
Non, c'est pas une machine à voyager dans le temps, enfin, c'est une machine à voyager dans ses rêves.
Dans ses rêves, voilà. Dans le temps, à travers le rêve en fait.
Voilà, c'est ça.
Qui a été inventé par le Jacques qu'il était à 48 ans, en fait.
Voilà.
Vous avez compris. Donc, il
c'est
va
l'homme
dans son...
qu'il va être dans le futur.
Il retrouve l'enfant qu'il était dans le rêve.
Jacques Chirac.
Il va mettre au point la machine qui lui permet de discuter. C'est-à-dire, c'est comme si on pouvait se connecter au vieillard qu'on va devenir et à l'enfant qu'on a été.
Exactement, dans le rêve. Ça existe, cette histoire de sixième sommeil, c'est une notion que vous avez inventée ou...
Alors, il existe cinq stades du sommeil, le cinquième stade étant le sommeil paradoxal. C'est-à-dire quand vous dormez, un premier stade c'est l'assoupissement, après sommeil léger, après sommeil profond et après sommeil très profond. Ça c'est le quatrième stade, pour tout le monde. Hein. Et le cinquième stade c'est le moment où votre corps est le plus paralysé et votre cerveau fonctionne le plus. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé paradoxal, parce qu'il est bizarre que notre corps soit comme un objet et que notre cerveau, par contre, nous balance des tas de films, de tas de trucs, il est en suractivité. Alors ce que j'ai imaginé, c'est un sixième stade qui soit un stade où le corps soit encore plus paralysé et où le cerveau fonctionne encore plus fort. Et fonctionne encore plus fort, en fait, il atteint ce que les hindous appellent le nirvana, c'est-à-dire un stade où on échappe à la chronologie du temps, on échappe au temps et on peut se reconnecter à tous les êtres qu'on a été et qu'on va devenir.
Voilà, et donc on peut se retrouver soi-même
spirituel.
À d'autres époques de sa vie, d'où le côté philosophe-écrivain que vous êtes.
Oui, c'est plus dans un domaine de la spiritualité que dans le domaine de la technologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine extraordinaire. Si ce n'est vers la fin, ils arrivent à mettre au point une sorte de projecteur qui permet de voir les rêves. C'est-à-dire qu'il suffit de rêver de quelque chose, ça apparaît sur un grand écran. Mais c'est le seul élément technologique. Le vrai enjeu, le vrai thème du livre, c'est qu'est-ce que vous avez à dire à l'homme que vous allez devenir et qu'est-ce que vous avez à dire à l'enfant que vous avez été. Et j'utilise le mécanisme des rêves et la découverte du monde du sommeil comme moyen de transmettre ces informations. Il faut voir que dans une vie, on passe un tiers de notre temps à dormir. 8 heures, les journées font en 24 heures, 8 heures, c'est un tiers. Donc on va, nous sommes censés vivre 100 ans, ça veut dire qu'on va rester 33 ans couchés dans un lit, à rien faire, en train juste d'attendre qu'arrive le moment du réveil. Et sur ces, ce un tiers de temps à dormir, il y a un douzième à rêver.
Donc, et finalement, ce que vous imaginez, c'est-à-dire la rencontre d'un homme avec l'enfant qu'il était à travers ses rêves, c'est finalement ce qu'on fait avec l'inconscient, dans un sens.
La oui, nuit, souvent, ben, pour les gens qui écoutent leur inconscient, c'est ça. Je crois que l'inconscient, c'est en même temps l'enfant qu'on a été et le vieillard qu'on va devenir. Mais se reconnecter à son inconscient, c'est pas si simple, parce qu'on a tout l'entourage qui en permanence nous envoie des stimuli qui font qu'on réagit au monde. C'est-à-dire, on se défend, on a peur, on a des ambitions, donc on réfléchit pas vraiment. Ce que je propose dans le sixième sommeil, c'est offrir une perspective. Rappelez-vous que, au-delà des petits combats que vous menez tous les jours pour votre famille, votre santé ou votre travail, il y a une ambition d'enfant et il y a peut-être une déception d'adulte ou une envie de vieillard.
Et il faut préciser aussi que dans le livre, il y a toute une intrigue aussi, puisqu'il s'agit de retrouver quelqu'un.
On suit les aventures de Jacqueline. En fait, en essayant de retrouver sa mère, il essaie de comprendre ce qu'est le sommeil. Actuellement, on ne sait pas ce qu'est le sommeil. On commence à peine à trouver des petites voies, mais je pense que dans 100 ans, on aura découvert des choses extraordinaires dans le domaine du bien dormir et dans le domaine de la maîtrise des rêves. Personnellement, en écrivant le livre, ça m'a donné envie de m'intéresser au peuple Senoï que j'évoque, c'est-à-dire c'est une tribu de Malaisie qui consacre l'essentiel de son temps à commenter ses rêves et qui considère que ce qui se passe dans la nuit est plus important que ce qui se passe le jour. Et en travaillant sur cette tribu, j'ai appris moi-même à faire du rêve lucide. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du rêve lucide.
Qu'est-ce que c'est le rêve lucide, alors?
C'est quand vous êtes dans votre rêve et tout d'un coup, vous dites « Tiens, je suis en train de rêver ». Et à ce moment-là, vous décidez de contrôler votre rêve. Et notamment, le premier exercice du rêve lucide consiste à s'envoler. C'est-à-dire, nos bras se transforment en ailes et on se met volontairement et consciemment à monter dans le ciel, à voler.
Non, j'ai jamais fait ça. Vous avez fait ça?
Moi, j'ai essayé avec une jeune fille qui passait, j'étais lucide, j'ai rêvé, mais ça ne marchera jamais, je me suis dit. Donc.
Thierry Garcia, rêve lucide, jamais?
Ben, c'est surtout Doc Gynéco. Il a inventé le septième sommeil.
Et donc, quand on fait un rêve lucide, et ensuite on se réveille, on y
alors,
pense?
Alors d'abord, quand on fait un rêve lucide, on peut faire toutes sortes d'expériences. Par exemple, on peut tester des situations qu'on ne comprend pas dans le réel. Par exemple, moi je peux utiliser le rêve lucide pour écrire des scènes. C'est-à-dire le soir, je ne sais pas trop comment je vais faire cette scène. Je me mets à le rêver, c'est-à-dire je fais mon film dans la nuit de la scène que je dois écrire le lendemain.
Et donc, après ça marche, vous arrivez à l'écrire. Parce que après, moi il m'est arrivé d'inventer par exemple des émissions de télévision dans la nuit, des super concepts. Et en fait quand je me réveille, je trouve que le concept est génial, je me réveille, je me dis quel concept extraordinaire et tout. Et au moment où je l'écris, je me dis mais c'est nul.
Excusez-moi, si tu as un des rêves et tu ne me les passes. Hein.
Dites-moi, alors sur votre site internet Bernard Werber, vous permettez à vos lecteurs de partager leurs rêves. Ouais. Et dans le livre, Caroline Klein, un des personnages centrales du roman, conseille aussi d'écrire ses rêves.
Oui.
Donc l'idée de les écrire d'une part et de les partager, est-ce que c'est important?
Oui, d'ailleurs j'ai une question à vous poser, Daniela, est-ce que vous notez vos rêves?
Non, jamais.
Et vous?
Bah, moi, ça m'arrive de basculer ça vers de l'écriture. Effectivement, ce que vous dites, c'est-à-dire d'influencer sur un rêve pour arriver à une histoire. Et à l'écrire le lendemain, si je m'en rappelle.
Et moi, j'ai jamais noté les rêves. C'est vrai que... Mais je m'en rappelle, par contre.
Le rêve, c'est quelque chose qui nous est vraiment personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas influencé par quelque chose d'extérieur. C'est un moment où on se reconnecte à sa source. C'est pour ça qu'il est important de rêver
et
de se mémoriser de ses rêves. S'il faut se rappeler les messages qu'envoie notre inconscient, vous parliez tout à l'heure de l'inconscient, c'est Freud le premier qui a dit « le rêve est la voie sacrée pour atteindre l'inconscient ». C'est le moment où tout d'un coup, vous déconditionnez de toutes les conneries qu'on vous a racontées dans la journée. Pour inventer un petit film, mais qui est un petit film qui fonctionne en mode symbolique. Donc, il faut le noter pour essayer après d'y réfléchir et comprendre ce que ça correspond. Je ne crois pas qu'il y ait d'explication des rêves. Je ne crois pas au... Vous savez, longtemps, on a cru qu'il y avait une sorte d'alphabet, qu'on rêve d'une pomme, qu'on rêve d'un serpent. Ouais. Moi, je ne crois pas. Pour chaque personne...
Il n'y a pas de décryptage. Chaque personne, ça doit évoquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est la méthode Salvator Dalí dont vous parlez dans votre roman?
C'est une méthode pour atteindre le sommeil paradoxal. C'est-à-dire, ça consiste à tenir une cuillère au-dessus d'un fauteuil à accoudoir. Et on s'endort en tenant la cuillère. Et on met au-dessus au-dessous de la cuillère une assiette. Et comme ça, au moment où on commence à partir dans la zone où on rêve, on lâche la cuillère qui tombe sur l'assiette et nous réveille. Donc on est réveillé au moment où on a le plus de chances de rêver. Donc après, on
peut
facilement...
Vous le faites, ça, Bernard Verbet ?
J'ai fait une fois.
Ouais. Et alors ?
Mais bon, c'est désagréable parce qu'une fois qu'on...
Bah ouais, c'est très désagréable.
Une fois
très
qu'on on est dans le rêve, on a envie d'y rester. Mais par contre, je sais qu'au Japon, aux États-Unis et je crois aussi en France, il y a des équipes qui réveillent des grands dormeurs pour leur demander à quoi ils rêvent, afin de le comparer à leur imagerie cérébrale. C'est-à-dire, on prend une photo du... On filme le cerveau, puis après on réveille les gens quand ils
rêvent et on essaye de comparer pour voir quelles sont les zones du cerveau qui se
sont activées. Voilà, pour arriver à fabriquer une sorte de dictionnaire de quand cette zone est activée, ça
qu'est-ce
veut dire que la personne rêve de ça.
Qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, et on arrive à voir que c'est un peu toujours la même chose chez différents individus ou même pas ?
Il y a des tendances, mais c'est pas encore net.
Bernard Verbet, en tout cas, cette question du rêve et du sommeil, vous étiez intéressé en tant que journaliste scientifique déjà, et puis là, c'est le sujet de ce livre, de ce sixième sommeil, donc le roman de Bernard Verbet, qui ne vous fera pas fermer l'œil de toute la nuit, mais dans un instant, c'est Thierry Garcia qui lui aussi va nous laisser, nous garder en éveil avec le rire grâce au rire. À tout de suite.
France Bleu, France Bleu, France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Et c'est Bernard Verbet qui est votre invité ce midi pour son roman passionnant qui s'appelle Le Sixième Sommeil. Tout de suite, Allô les stars avec Thierry Garcia. Thierry qui a des appels de stars pour vous. Et on attaque donc sans plus attendre avec un premier appel.
Oui, bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil. Je voudrais parler...
Salut Julien.
Bonjour, bonjour. Je voudrais parler à monsieur Verbet, s'il vous plaît. Il est avec vous ?
Bah oui, présent. C'est à quel sujet ?
Bien disons que des auditeurs nous ont contactés car apparemment, ils se seraient rendus coupables d'escroquerie.
Ah bon ? Quel genre d'escroquerie ?
Eh bien, son livre s'intitule Le Sixième Sommeil. Et certains consommateurs naïfs qui pensaient guérir leurs insomnies en le lisant se sont fait gruger. Il est tellement haletant, passionnant et plein de suspense qu'au lieu de trouver Le Sixième Sommeil, ils n'ont pas fait fermez l'œil de la nuit, hein ? Tromperie sur la marchandise, monsieur. Alors il va falloir que ça cesse, car mes avocats et moi-même, nous n'en resterons pas là.
Allez, requête, acceptez votre honneur.
J'accepte.
Mon client va plaider coupable, j'en suis sûr. Appel suivant.
Bonjour, c'est Pierre Gattaz, patron du MEDEF. Je viens d'apprendre que dans les fourmilières, une grande proportion des travailleuses restent inactives. Hein, monsieur Verbet va peut-être pouvoir me renseigner. Il s'agit des fourmis rouges, j'imagine, hein, les plus syndiquées.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Mon expérience auprès d'une autre espèce qui, comme les fourmis, vit en communauté, s'agitent beaucoup pour pas grand-chose et sont attirés par le sucre, surtout celui de la machine à café, les employés de France Bleu.
Ah, ces propos n'engagent que vous, monsieur Gattaz, je ne cautionne pas. Jean-Michel Apathy nous rejoint.
Remarquablement, ma chère Daniela, en tant qu'analyste politique, je me dois de faire remarquer à votre invité qu'en plus d'être scientifique et divertissante, son œuvre foisonnante est une magnifique allégorie de la vie politique française.
Comment ça ?
Eh bien, regardez, une BD qui s'appelle « Le temps des bricoleurs ». C'est le gouvernement socialiste, on est d'accord. Un recueil de nouvelles intitulé « Paradis sur mesure ». C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Une compilation des déclarations de Nadine Morano. Hein ? Le rire du cyclope. La vengeance de Jean-Marie Le Pen. Eh oui,
oui.
Quant à son dernier livre, Le Sixième Sommeil, c'est exactement ce que nous vivons à chaque élection présidentielle. On rêve pendant 6 mois de campagne, quand on se réveille, on est en plein cauchemar.
Fine analyse, hein, Jean-Michel Apathy, bravo. Allez, dernier appel du jour, il nous vient de la ville rose.
Bonjour, c'est Claude Spanghero, au milieu, ancien international de Ruy. Moi, j'appelle pour prévenir les petits nains de la critique parisienne, là, hein. Attention, les blaireaux, hein. S'il y en a un qui dit encore du mal des livres de Verbet, je lui cuisine son article façon lasagne et je lui fais bouffer par le cul, hein. Attention, on touche pas aux Toulousains, milieu, hein.
C'est tout.
Compris ? Oui, 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 t'as le pâté qui touche à la boîte, toi, quoi, oh. Et bien sûr que non, que c'est pas tout. Les Irlandais aussi, ils ont intérêt à aimer la littérature de Verbet, parce que dans une semaine, en Coupe du Monde, non seulement on va les écraser comme des fourmis, mais en plus, on va tellement leur mettre sur la gueule qu'ils vont tous roupiller au sixième sommeil. Hein ? Alors, bonne nuit, les petits. Cette fois-ci,
c'est
fini.
Voilà, c'est fini. Merci, bravo. Claude Spanghero, et merci, bravo. Thierry Garcia, qu'on peut aller voir en ce moment, d'ailleurs, sur la scène de la Grande Comédie à Paris, et qu'on retrouve demain dans France Bleu Midi Ensemble, à 12h40, avec Allô les stars.
Merci beaucoup.
Et c'est Bernard Verbet qui est votre invité. Il reste avec vous jusqu'à 13h30. Tout à l'heure, Ina Modja viendra nous rejoindre pour nous faire découvrir son nouvel album. Et tout de suite, on s'écoute Calogero, avant toi.
France Bleu Midi. Ensemble, ensemble, les coulisses sont sur les réseaux sociaux.
On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Vous êtes femme et dirigeante. Vous avez gravi les échelons, monté votre boîte, balayé les préjugés. Vie privée et familiale, on se dit tout avec Françoise de Rolez, coprésidente de Professional Women Network.
On se dit tout avec Vanessa Lambert. Ce soir, de 21h à minuit sur France Bleu.
C'est des jours entiers ployés sous un fardeau, jamais léger, toujours courbé le dos avant toi, laisse-moi te dire que c'est traîner des pieds, c'est exister à peine. Désespérer que quelque chose advienne avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Sinon, un préambule, un long chemin de croix, puis tout bascule. Avant toi, c'était rien, aussi peu que mon corps. Toi, ce souvenir de s'être senti mort. C'est se démener, chanter dans le désert. Pour qui c'était tous ces vers, tous ces airs. Avant toi. Avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Une répétition de mots, de gestes là, puis l'explosion. Avant toi, c'était rien, aussi peu que mes bras n'avaient jamais étreint.
C'était Calogero avant toi sur France Bleu.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Avant lui, avant Bernard Werber, il y aura un avant et un après ce livre, Le Sixième Sommeil, parce qu'évidemment ça passionne tout le monde, hein, on a tous envie de savoir ce qui se passe pendant qu'on dort, c'est quand même quelque chose d'extrêmement mystérieux finalement. On explore les planètes, on découvre qu'il y a peut-être de la vie sur Mars, et puis on sait peu de choses de ce que nous nous faisons pendant notre sommeil. Alors dans ce livre, Le Sixième Sommeil, il y a à la fois une intrigue d'un homme qui redevient enfant, enfin qui arrive à communiquer avec l'enfant qu'il était grâce à son sommeil, et qui en même temps part à la recherche de sa mère. mère, Caroline Klein, qui est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup au sommeil. Grâce à elle d'ailleurs, et à travers elle, vous glissez des informations authentiques. 60% des gens reconnaissent mal dormir, 40% consomment régulièrement des somnifères, 20% ont des problèmes chroniques de sommeil, des couples divorcent parce qu'il y en a un qui ronfle ou qui a le sommeil agité. Combien de drames, accidents de voiture, échecs scolaires ou professionnels sont dus simplement à de mauvaises nuits?
Oui, Napoléon prétendait qu'il dormait très peu. En fait, il était insomniaque, ça le rendait nerveux. Et du coup, il a envahi toute l'Europe. Il y a quand même des répercussions du mauvais sommeil sur notre histoire. Et je pense que le monde appartient aux bons dormeurs.
C'est-à-dire avant les élections, là, 2017, il faudrait qu'on fasse des tests nocturnes sur nos candidats.
Mais il y a aussi une chose, c'est qu'on va peut-être apprendre dans les années à venir, et j'en parle en sixième sommeil, à mieux dormir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le temps où on reste couché dans le lit, c'est le temps où on descend dans le sommeil vraiment récupérateur, ce fameux cinquième stade qui est le stade du sommeil paradoxal. Et moi, j'ai connu des gens qui arrivaient à dormir qu'une heure et demie, par séquence d'une heure et demie. C'est notamment les navigateurs solitaires qui font, vous savez, le tour du monde. Vu qu'il y a un trop grand risque de percuter un paquebot ou un iceberg, ils sont obligés d'arriver à faire des séquences d'une heure et demie. Et donc, ils foncent direct au sommeil paradoxal, ils récupèrent énormément et ils remontent.
C'est ce que fait le père du héros, d'ailleurs, dans votre livre. Il arrive à dormir scientifiquement, en fait, comme ça.
Les sportifs apprennent à faire ça. Les soldats, les militaires apprennent à faire ça. C'est parce que souvent, les attaques se font de nuit, donc il faut qu'ils ne puissent dormir sur un temps très réduit. Et je crois que bien dormir, ça veut dire être plus créatif, avoir plus d'énergie, être moins agressif. Et en fait,
et
l'avenir...
Et vous dormez bien, vous, Bernard Werber?
Alors, le livre m'a été inspiré par une année de mauvais sommeil qui était liée à la naissance de mon dernier enfant. Et il se levait à 2, 4 et 6 heures. Donc, j'ai dû apprendre de force à dormir en 2 heures.
En fragmenté.
Voilà. Et en même temps, je me suis dit, tiens, il faut que j'étudie ce qui se passe dans la nuit. C'est-à-dire, chaque fois qu'il m'arrive un problème, j'essaie de comprendre scientifiquement ce qui se passe. Et donc, j'ai commencé par prendre une petite application que j'ai mise sur mon smartphone. Et quand je dormais, j'ai vu apparaître les courbes. Donc, la courbe, ma descente.
Donc, cette application,
dans le sommeil
en fait, il faut dormir à côté de son téléphone, l'avoir dans
en mode
lit,
avion.
En mode avion dans son lit. Et, et l'application
dit
exactement ce qui se passe pendant le sommeil, c'est-à-dire votre activité. Quoi,
qu'on appelle un hypnogramme, c'est-à-dire c'est la courbe de mes 5 descentes. Non, enfin, une bonne nuit, c'est 5 descentes, 5 descentes dans le monde des rêves, donc c'est 5 rêves. Et ça me signale le matin la qualité de mon sommeil, ça met une note. Dans cette nuit, je crois que j'ai 81%, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est parce que hier soir, je me suis couché plutôt tôt et que je me suis réveillé facilement.
Et donc du coup, vous regardez le matin et vous dites 80%, c'est ça bon, je vais passer une bonne journée. Mais sinon, si vous avez moins, vous dites, je vais être mal aujourd'hui. Ça vous influence, du
coup? Si j'ai une mauvaise note, je vais en tout cas me coucher plus tôt le lendemain.
Le lendemain. Vous écrivez, tant qu'on n'a pas dormi avec quelqu'un, on ne sait pas à qui on a affaire.
Oui.
Du coup, vous avez imposé à votre compagne d'avoir la même application et elle dort dans le lit avec le téléphone de son côté.
J'impose rien à personne.
Et vous vous êtes rendu compte
ça
que vous n'aviez pas les mêmes cycles de sommeil l'un et l'autre. Et
oui.
Que
non,
chacun...
mais elle, c'est une surdouée du sommeil. C'est-à-dire qu'elle fonce direct. Elle m'a montré une fois une courbe qui m'a fait énormément envie. Ouais. C'est-à-dire comme une plongée sous-marine, si je puis dire. Comme une plongée sous-marine, elle descend direct dans la fosse du sommeil paradoxal et elle y est restée toute la nuit. C'est-à-dire elle a fait 7 heures de sommeil paradoxal alors que moi je fais des petites séquences de 10 minutes.
Et c'est pour
minutes.
Ça que vous l'avez choisi en fait. C'était un test.
Non, c'est un cadeau en plus. Non seulement elle est formidable, mais en plus elle dort bien et du coup elle est de bonne humeur et elle est facile à lire.
Si vous voulez lire un roman amusant, qui détend, qui est passionnant, qui va vous intriguer et qui en même temps va vous apprendre quelques données scientifiques sur le sommeil, précipitez-vous. Le livre s'appelle Le sixième sommeil et c'est le nouveau roman de Bernard Werber. Dans un instant, c'est la télé avec Patrice Gascoigne.
France Bleu Matin.
Bonjour à tous.
Chaque matin, on décrypte le web sur France Bleu.
La vidéo a été partagée plus de 2 millions de fois.
Frédéric Dorel et l'œil du web le matin à 5h40 sur France Bleu.
France Bleu présente Kortsu, l'album de la rencontre musicale entre Corse et continent. Kortsu, toute l'émotion des voix du patrimoine corse accordée aux plus grandes voix de la chanson française. 16 duos d'exception. Kortsu, un pont entre Corse et continent.
Un album unique, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
avec Bernard Werber qui est votre invité aujourd'hui pour son nouveau roman qui s'appelle Le Sixième Sommeil. On va s'intéresser à vos programmes télé ce soir et en particulier Patrice, un grand nom de la chanson française, c'est sur France 3 et c'est Georges Brassens.
Oui, là, exactement. Hommage ce soir, comme dirait Julien Lepers, je suis né à 7. J'ai chanté sur scène accompagné d'une guitare. J'ai enregistré 14 albums entre 1952 et 1976. Parmi mes multiples succès, l'un d'entre eux était dédié aux amoureux sur les bancs publics. Bancs publics, je suis.
Georges Brassens.
Oui, on vérifie tout de suite.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes.
Voilà, hommage donc ce soir à Georges Brassens sur France 3. Alors avec 60 millions de disques vendus, il faut savoir qu'il reste l'un des chanteurs les plus traduits. Féministe avant l'heure, anticlérical tolérant, pacifiste, opposé aux bien-pensants. C'est un personnage complexe que vous allez découvrir avec des images d'archives et des interviews. Interviews de chanteurs, de journalistes, d'historiens, d'humoristes. On entend par exemple Juliette Gréco, Maxime Le Forestier, Olivia Ruiz. Son portrait est tiré à travers 6 thématiques qui lui ressemblent. Alors il y a la thématique amitié, les femmes et l'amour, la langue, la musique, le libertaire, la postérité. Écoutez-le par exemple lors de cette interview télévisée. C'est une vidéo disponible dans les archives de l'INA. Nous sommes en 76. Son dernier disque vient de sortir. Ça s'appelle Tempête dans un bénitier. Et pour Georges Brassens, tout est déjà fini.
Vous savez qu'il n'y a pas 36 000 thèmes. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que quelques thèmes. Et en réalité, chacun les traite selon sa nature, selon son caractère et selon la période de sa vie. En réalité, presque tous les hommes n'ont pas à leur disposition beaucoup de choses à dire. Ils parlent de l'amour, ils parlent de la fuite du temps, ils parlent de Dieu, ils parlent de la difficulté d'être, enfin tout ça, mais à part ça, tout le reste, c'est de la littérature qu'on fait autour. Si vous voulez, je suis complètement fini. Je n'ai plus grand-chose maintenant à inventer. Tout ce que je sors, je l'ai déjà plus ou moins trouvé. Sous une forme un peu, encore un peu balbutiante, mais le principal est déjà fait, il ne reste plus qu'à l'écrire.
Georges Brassens. Bernard Werber, est-ce que ça, c'est un artiste qui est idéal à écouter avant de s'endormir, par exemple?
Oui, parce que c'est une musique douce. Évidemment, il faut mieux dormir sans hard rock, il vaut mieux dormir avec du Brassens. Ah, et puis, c'est des paroles aussi qui racontent une histoire.
Et donc, tu peux faire réfléchir aussi, du coup, voilà. Pour la nuit.
Garo Gorille, ça fait rêver. Et les amoureux sur le banc public aussi.
Georges Brassens qui nous quittera le 29 octobre 1981. Il a environ 34 ans. Donc si vous avez envie de le retrouver,
on
avant
peut
de
dormir, faire un sixième sommeil et repartir en arrière et retrouver peut-être Georges Brassens.
Discuter avec le Georges Brassens enfant. Effectivement, chacun son chemin. Direction France 3 ce soir. Brassens est en nous. Ça commence à 20h50.
Et puis ce soir sur TF1, c'est le retour de Nicolas Canteloup.
Oui, très attendu par TF1 ce soir. C'est le retour de C'est Canteloup. Du lundi au vendredi à 20h45. C'est déjà sa 5e saison sur la première chaîne d'Europe et on comprend que TF1 lui fasse les yeux doux tous les ans pour revenir puisque la moyenne d'audience de C'est Canteloup, c'est de 7,3 millions de téléspectateurs par jour durant les 7 minutes que dure C'est Canteloup. En gros, 30% des téléspectateurs devant leur écran à cette heure-là se branchent sur TF1 pour regarder C'est Canteloup. Et comme chaque année, il retrouve son complice de toujours, Nikos Aliagas. Alors C'est Canteloup est enregistré en public et il n'est pas rare de voir Nikos partir avec une petite caméra au poing à la rencontre de la 60aine de personnes qui attendent dans le couloir avant de rentrer dans le studio. Alors voilà, on va suivre, on écoute notre Nikos national en grand reporter dans les couloirs de C'est Canteloup. Nikos, c'est à toi.
Hop hop hop, bonjour. Alors, vous êtes en forme aujourd'hui, vous êtes comment? Bonjour, bonjour. Vous êtes prête?
Ah, il est là.
Bah oui, il est là.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien? En grande forme?
Vous
n'avez pas trop... Pas trop, bonjour mademoiselle. Qu'est-ce que vous dites? Bon, vous êtes venu pour Nicolas Canteloup.
Voilà, que je verrai peut-être demain.
Ah oui, demain, il y a une autre émission ailleurs, j'imagine. Et vous êtes venu pour qui?
Pour assister à l'émission, pour m'entraîner.
C'est gentil, merci. Merci pour moi. Non, c'est très gentil. Bonjour.
Bonjour.
Ça va? Bonjour madame.
Bonjour.
Ah, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour, je vais vous donner le nom, mais je peux vous donner ma main.
Bonjour.
Je
ne vais pas mordre, Bonjour.
Ben oui, mais on l'a pris hier.
Où avez-vous? Ah oui, sur le tournage des choristes, ça vous a plu?
Oui, bon, c'est la première fois que je viens vous voir.
Hein. Et alors, quel effet ça fait?
Je sais pas, je vous ai pas encore vu.
Il est sympathique ce Nikos.
Voilà, il est caché derrière sa caméra. Allez, pour terminer, est-ce que vous savez quel est le point commun entre Nicolas Canteloup et le héros de bande dessinée Is No Good qui sort ces jours-ci.
Non.
Une petite idée. Le point commun s'appelle Laurent Vassilian, c'est l'un des auteurs de Nicolas Canteloup, et c'est lui qui a été choisi par Anne Goscinny pour succéder carrément à son père et écrire les textes de la nouvelle aventure de Is No Good en bande dessinée. Ça s'appelle Is No Good de père en fils, et ça sort à partir de ce jeudi 8 octobre dans les bonnes librairies. Il y a aussi une intégrale, volume 2 de Is No Good, 280 pages de complot, d'intrigues et de surprises.
Merci Patrice Gascoigne, nous sommes avec Bernard Werber qui nous plonge aujourd'hui dans Le sixième sommeil, c'est le titre de son nouveau roman, et dans un instant c'est une chanteuse talentueuse qui va nous faire voyager jusqu'au Mali, et c'est Ina Modja. À tout de suite.
France Bleu. Écoutez, on est bien, 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 bien. Ensemble.
France Bleu.
On est bien ensemble. France Bleu aime. Zaz.
Les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie.
Si jamais j'oublie, Zaz.
Un coup de cœur, France Bleu.
France Bleu, France Bleu, France Bleu.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Avec Bernard Werber aujourd'hui pour son dernier roman sur un sujet qui nous fascine tous, le sommeil. Et puis une chanteuse de retour avec un album surprenant dans lequel elle chante en bambara mais aussi en anglais, c'est la belle Ina Modja. Bonjour Ina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. 13h25, ce sera l'actu de la musique avec une interview de Joyce Jonathan avec Élodie Suigo.
Oui, c'est comme Ina Modja, en fait, elle irradie de bonheur. Bah là, en fait, Joyce, elle s'attaque à un titre qui s'appelle Le Bonheur. Et moi, j'ai eu plaisir à discuter avec elle parce que j'ai l'impression qu'il y a un tournant pour elle et ça lui va bien.
Et il irradie de bonheur aussi parce que l'actu, il y en a, c'est Pascal Atenza, il fait des paris sur l'actu, oui, comme chaque jour.
Bonjour Daniela, bonjour à tous. Alors on a une petite pensée pour nos amis du sud-est de la France, hein, oui, parce que c'est pas évident, donc ouais, on est vraiment avec eux. Heureusement, donc pour trouver un sujet, j'ai trouvé Nadine Morano.
Ben,
elle continue. Vous savez qu'elle était ministre de l'apprentissage, hein, et on voit bien qu'elle a pas fini sa formation, je crois.
France Bleu Midi Ensemble, c'est la deuxième partie, et c'est jusqu'à 1h30. Ina Modja, alors 4 ans après Love Revolution, vous êtes de retour avec un troisième album qui s'appelle Motel Bamako. Vous renouez d'une certaine manière avec votre culture malienne, avec oui, des instruments africains et des thèmes, la langue aussi, le bambara, et des thèmes qui sont des thèmes qui vous tiennent à cœur, hein, autour du Mali.
Oui, j'avais envie de rentrer chez moi et de renouer avec la musique malienne parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça me manquait. Et c'est comme ça que j'ai commencé en faisant de la musique malienne à Bamako. Et
parce que nous, on vous a découverte avec un tube qui était Monsieur Sainte-Nitouche, oui, qui était très pop. Finalement, oui, ça faisait pop anglaise un petit peu.
Hein. Oui, complètement. Parce que j'ai une culture qui est malienne, mais aussi anglophone, parce que j'ai grandi entre Bamako et Accra, au Ghana, qui est un pays africain anglophone. Et donc, j'ai cette culture qui est métissée. Et j'avais, dans ma musique, ça s'est ressenti. Et là, je reviens vraiment avec un album beaucoup plus malien, parce que c'est le bon moment pour moi de faire ça.
Alors, on va écouter un premier extrait sorti de cet album. Ça s'appelle Tombouctou, Ina Modja.
Bidona, Kongobora, San Salutani Fila Kono Kamenya Nina, Anga Moku Pekasa Dungudu, Kokele Munteban, Ode Dabora, Antansi Kanda Minesa, Kanga Dugutu Kafiru Bolosa, Uko Kubi Normine, Kubi Sudmine, Lise Kunchefe Kubani Mine.
Voilà, c'était Ina Modja, Tombouctou. Donc, vous vous êtes replongée dans cette culture finalement de malienne, mais en la modernisant, en lui apportant une touche hip-hop, une touche électro aussi.
Oui, parce que j'avais envie de faire de la musique malienne de ma génération, donc emmener la modernité via l'électro et en samplant aussi, en utilisant les instruments et les influences maliennes de façon plus moderne, parce que avant notre génération, ça a été tellement bien fait par des grands comme Salif Keita ou Moussangaré ou Shakti Diensek que notre génération l'emmène ailleurs avec des influences d'ailleurs.
Ouais, plus électro du coup. Hein. Oui. Motel Bamako. Alors, est-ce que vous dormez bien dans ce motel Bamako, Inamoja? Parce que c'est très important pour Bernard Werber.
Je dors très bien. Je dors très bien dans ce motel Bamako parce que c'est mon lit est là, c'est chez moi, donc ouais. Naturellement.
C'est une façon de retrouver aussi la petite fille que vous étiez, de la reprendre par la main.
Complètement, ouais. Complètement. J'ai l'âge aussi où j'ai envie, j'ai les épaules plus solides de parler de moi, de me dévoiler un peu plus, parce que sur les albums précédents, j'aimais bien raconter les histoires des proches. Et sur celui-ci, je parle de moi, donc naturellement, pour parler de moi, je dois parler de qui je suis et
voilà, comme dans cette chanson Water, par exemple.
Dugu digu kumana, drobe neula irutara, nga alisini ube kolonji de solila. Namahine anga mahola, ube sege ube nyanina. Paula, now you don't call a fila. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water.
Alors, ce que vous dites là en anglais, c'est j'ai l'habitude de marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau.
Oui.
Inamoja, vous avez vécu ça?
Je l'ai vécu quand j'étais enfant et adolescente, parce que chez ma grand-mère, dans le quartier où elle habitait, fallait aller chercher de l'eau. Mais je l'ai vécu vraiment ponctuellement. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours.
Au quotidien, vraiment. Et des toutes petites filles, des enfants petits. Vous évoquez aussi les boat people,
oui.
Ces migrants de Lampedusa dont on parle beaucoup ces derniers temps, justement.
Oui. C'est une chanson que j'ai écrite il y a 2 ans. Et quand il y a eu ce terrible naufrage sur les côtes de Lampedusa, de 500 personnes qui essayaient de se réfugier en Italie et qui ont péri lors de la traversée. C'était un thème qui était très important parce que ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui partent de chez nous pour essayer de faire la traversée. Avant, c'était via le détroit de Gibraltar. Maintenant, c'est un peu partout. Donc, c'est un thème qui me touche beaucoup. Et de savoir qu'il y a des gens qui n'ont tellement plus rien à perdre parce qu'ils n'ont rien.
Qu'ils
et qu'ils n'ont
comme
pas
ça.
D'espoir. Et tuer l'espoir, c'est la pire chose qui
qu'ils partent avec des enfants petits, au risque de leur vie et de leurs proches. Boat People, extrait de l'album d'Inamoja. Motel Bamako, c'est le titre de l'album d'Inamoja dont on écoute quelques extraits aujourd'hui. Inamoja, vous continuez votre carrière de mannequin et d'actrice en parallèle?
Oui, de comédienne, oui, de mannequin.
Mannequin, ça y est.
Un peu moins. Je fais des campagnes ponctuellement
pour certaines marques,
ouais. Mais je cours plus les castings parce que je voudrais pas me retrouver en face de gamines de 14 ans qui passent le même casting.
Et votre engagement, il n'est pas seulement musical, il est aussi très concret puisque vous vous battez contre l'excision. Vous aviez raconté que vous en avez été vous-même victime quand vous étiez enfant.
Oui.
Du coup, aujourd'hui, vous n'avez pas envie que d'autres vivent la même chose. Ce combat, il est de plus en plus difficile, non? Est-ce qu'il n'y a pas
il
toujours
a
un retour
difficile.
À la tradition qui fait qu'il faut encore se battre?
Il a toujours été difficile. Ça fait une dizaine d'années que je milite contre l'excision. Et là, je travaille avec les Nations Unies à New York pour éradiquer l'excision. Et c'est la chose la plus difficile, c'est de combattre des mentalités,
des traditions
ouais. Et des idées reçues. C'est très difficile de faire changer les mentalités. Donc, c'est un travail lourd qui demande du temps et beaucoup d'éducation, de prévention. Et ça va nous prendre du temps. Mais ouais. Moi,
vous ne vous découragez pas, en tout cas.
Non, parce que c'est tellement dur à vivre ouais. Pour les femmes. Et quand on l'a vécu, comme je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Et j'aimerais éviter à toutes les petites filles de passer par ça.
Inamoja, qui est votre invitée, on va continuer à découvrir son très bel album qui s'appelle Motel Bamako. Mais dans un instant, c'est les paris de Pascal avec Pascal Atenza.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Avec Bernard Werber et Ina Modja, on va retrouver Pascal Atenza, c'est les paris de Pascal. Et on parie sur le premier livre d'Emmanuel Macron.
Oui, le ministre de l'économie est en train d'écrire un livre pour expliquer pourquoi il est de gauche. Voilà, on pourrait s'arrêter là tellement c'est drôle. Sûrement un livre de science-fiction. Alors, pour penser qu'Emmanuel Macron est de gauche, il faut qu'il écrive Les Misérables, au minimum, hein, sinon on le croira jamais. Alors écrire un livre, évidemment, bah, c'est très dur, alors que prouver qu'on est de gauche, c'est beaucoup plus simple. Déjà, faut être pote avec Martine Aubry. Bon, c'est pas facile d'être ami avec Martine Aubry et la maire de Lille, hein, c'est bien connu. Quand t'arrives dans le Nord, tu pleures deux fois. Une fois quand tu arrives, une fois quand tu vois Martine Aubry. Et quand il va savoir que pour être de gauche, faut écouter les chansons de Vincent Delerme et aimer les films des frères Dardenne, il va peut-être abandonner son projet. Alors, pour écrire son livre, il peut s'inspirer de grandes personnalités de gauche, comme DSK. Oui, DSK est le dernier véritable homme de gauche. Au Sofitel de New York, avec la femme de chambre, il a considérablement contribué à rapprocher le monde de la finance avec le monde ouvrier.
Mais
c'est
vous
le seul,
êtes
bien sûr.
Immonde, abject. Bon. Il en est où dans l'écriture de son livre ?
Eh ben c'est dur, il a du mal, c'est pour ça qu'il voulait qu'on travaille plus. Il s'est rendu compte que trouver des arguments pour prouver qu'il était de gauche, ça mettrait plus de 35 heures de travail par semaine, donc c'est pas fini. Hein.
Allez, après les dérapages de Nadine Morano dans l'émission On n'est pas couché, Nicolas Sarkozy annonce qu'il n'ira jamais dans cette émission. D'ailleurs, oui. Chaque semaine, il y en a un qui annonce ça.
Oui, personne ne veut aller chez Ruquier. Après Fillon, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de dire qu'il n'ira jamais chez Ruquier. Bon, il a dit aussi qu'il n'ira jamais chez le juge, hein, pourtant. Or, de nombreuses personnalités des Républicains ont soutenu Nadine Morano dans ses propos. Pour certains d'entre eux, Nadine Morano pense tout haut ce que... Ah, je viens de dire Nadine Morano pense. C'est déjà bien pour commencer la semaine. Bref, pour Sarkozy, il ne faut pas mélanger divertissement et vie politique et également surveiller son vocabulaire. C'est vrai qu'avec Casse-toi, pauvre con, c'est quand même lui qui a commencé. Et c'est vrai qu'on n'est pas couché à beaucoup changer. Avant, tu ne comprenais pas les jeux de mots de Laurent Ruquier et maintenant, en plus, tu ne comprends pas Yann Moix.
Ah bah oui, ça devient difficile. Vraiment, ce que je me suis dit samedi, je ne comprenais pas tout. Hein.
Voilà, bah, il va falloir s'entraîner.
Et puis, pas vraiment ses phrases.
C'est vrai, c'est très curieux. Ouais. Et puis, c'est difficile de choisir entre les deux émissions de débat de France Télé. Oui, on dirait que tu vas participer à une soirée échangiste. C'est le week-end très tard, dans la nuit. La plupart des invités, tu les as jamais vus. Et puis ça s'appelle On n'est pas couché. Et ce soir ou jamais, donc j'invente rien quand même.
Le Sarkozy ne veut pas de mélange de genre. Or, il a fait vivement dimanche.
Et oui, mais ça, Drucker. ça compte pas. C'était pour se rendre compte. Chez Drucker, c'est le dimanche après-midi. C'est chaleureux, confortable. Avec ce magnifique canapé rouge, on peut caresser le chien de Drucker. C'est apaisant, on se sent un peu comme en famille. Il y a des animations avec des humoristes qui font des blagues. Parfois, on y chante. Bref, Sarkozy voulait voir par lui-même avant de placer Alain Juppé dans cette maison de retraite.
Scandale au Vatican après le coming out d'un prêtre polonais très haut placé.
Oui, ça a fait le buzz ce week-end. Il a annoncé qu'il était homosexuel et qu'il vivait avec son compagnon. Pour le Vatican, ça pose deux problèmes. La position de l'Église vis-à-vis de l'homosexualité, c'est pas réglé. Et son vœu de chasteté qui a été rompu. Et oui, problème de chasteté. Oui, parce que l'Église a dit aimez-vous les uns les autres et pas aimez-vous les uns sur les autres. C'est une nuance, mais elle est quand même importante pour le Vatican.
Ouais, c'est très important. Merci Pascal. On vous retrouve demain pour de nouveaux paris. Bernard Werber et Ina Modja sont vos invités aujourd'hui jusqu'à 13h30. On va écouter Bad News justement, tiens. Ça ira. Boom Moon Martin, à tout de suite.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Écoutez, on est bien ensemble. Le top. Le top France Bleu. Éric Bastien.
C'est une tournée qui cartonne dans toute la France pour Michel Fugain et son groupe Le Rébus, un nouvel album pour Angoul et puis un live de Francis Cabrel. Ils font l'actualité musicale cette semaine et ils sont sur France Bleu.
Le top France Bleu de 19h30 à 21h sur France Bleu.
Bad News, hein, c'était Mood Martin sur France Bleu.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Avec Ina Modja aujourd'hui pour son album Motel Bamako et avec Bernard Werber pour le livre Le Sixième Sommeil. Alors, dans ce livre, vous imaginez que vous puissiez revenir 20 ans en arrière en rêve. La personne que vous avez été plus jeune et que vous rencontrez, imaginez que vous ayez la possibilité de lui parler. Que lui diriez-vous ? Alors, vous, Bernard Werber, vous avez imaginé ça pour vous, personnellement, au-delà du livre ?
L'enfant que j'ai été ou le vieillard que je vais devenir ?
Bah, tout, les deux.
L'enfant que j'ai été, j'ai envie de lui dire de prendre des risques, que même si on échoue, de toute manière, au moins on a l'expérience. Le pire qui puisse arriver, c'est rester chez soi à regarder la télé.
Et vous trouvez que l'enfant que vous étiez a pas appris suffisamment de risques ?
Je crois que j'étais un peu trouillard. Vous savez, j'étais le binoclard à lunettes qui lisait des livres. Il n'y a pas de hasard.
Mais du coup, vous en écrivez, c'est pas si mal, oui, finalement. Si vous aviez été un téméraire casse-cou, vous auriez
fait
des choses
plus.
Moins intéressantes.
J'aurais dû voyager plus. J'ai beaucoup voyagé, mais il y a des moments, chaque fois que ça a l'air un peu compliqué, chaque fois que j'arrivais dans une zone un peu bizarre, je me disais, bon, si on peut s'abstenir, on y va pas.
On a peur.
Puis de même,
et le vieillard que vous allez être, hein, qu'est-ce que vous avez
j'allais
envie
pas beaucoup
de
vers les autres.
Ah oui.
Maintenant, je suis
maintenant,
un peu plus d'effort.
Mieux. Le vieillard que vous allez devenir, vous avez envie de lui dire quoi ?
Moi, j'ai envie qu'il soit fier de moi. C'est pour lui que je fais tout ça. C'est-à-dire pour que juste avant de mourir, les quelques secondes avant que je ferme les yeux, je me dise, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est pas trop mal. Voilà, juste ça, si j'arrive à cette idée et que j'ai un petit sourire. Je crois que.
Mais être vieux,
mourir,
c'est pas seulement
sourire.
Il faut être vieux. Alors, d'abord, c'est ça qui est plus compliqué.
Parce que quand vous me dites être vieux, pour moi, ouais, c'est la dernière seconde avant de quitter cette incarnation-ci. Ouais.
Mais quand vous serez vieux, que vous aurez du mal à marcher...
Je me dirais, pourvu que j'ai bien mis mes points de retraite, parce que là, vu le prix de l'hospice, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps, et vu qu'on m'annonce qu'on va encore baisser les retraites, donc je vais me dire, pourvu que le petit con que j'ai été ait bien investi en pensant à ces années-là.
Dans le livre, Le Sixième Sommeil, Bernard Werber, la relation mère-fils, elle est idyllique. Hein, le personnage central, il fait tout ce que dit sa mère, qu'il soit enfant ou adulte, sans rechigner. Est-ce que c'était vous, ça ? Ou c'est encore vous, peut-être ?
Alors, non, moi j'ai une chance, c'est que j'ai une mère qui a cru que j'étais un génie. Je lui ai dit, non, je suis un type normal. Mais elle a tellement insisté qu'à un moment, j'ai essayé de me distinguer pour lui faire plaisir. Et je crois que c'est peut-être ça qui fait que certains ressortent du lot. Je crois que je suis pas plus intelligent que la moyenne. Je suis un type complètement normal, mais qui a essayé de faire plaisir à sa maman. Donc c'est un peu dans Sixième Sommeil ce que j'ai envie de transmettre. Ouais. En fait, une mère peut avoir énormément d'influence. Elle peut entièrement programmer un enfant à naître ce qu'il n'est peut-être pas fait pour être. Sans ma mère, je travaillerai dans une administration, à faire un
métier
en milieu.
Et aujourd'hui, Bernard Werber, vos livres, ils se vendent dans le monde entier. Hein, ils sont traduits dans plus de 30
langues. Donc, merci maman.
Ina Modja, vous, c'est un surnom. Ina Modja, c'est un surnom que vous donnez votre maman. Ça veut dire petite peste.
Oui.
En peul, de façon affectueuse quand même.
Oui,
mais parce que vous n'étiez pas comme Bernard Werber, la petite binoclarde.
Non, moi, hein,
j'étais téméraire.
Complètement. Je suis devenue un peu moins avec l'âge. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de me booster un petit peu en rentrant chez moi et en me rappelant justement l'ado que j'étais, qui avait beaucoup
peur de
rêves
rien.
Et qui avait peur de rien et qui avait des grandes ambitions. Et ça m'a permis de dépasser un peu les peurs d'adultes que je m'étais créées.
Les peurs, c'est terrible. Hein. Mmh. Votre maman n'était pas vraiment contente que vous soyez chanteuse. Pour quelle raison ?
Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de...
Elle aussi, la peur.
Oui, elle a peur que ce soit un métier instable qui ne me permette pas de vivre et qui ne me permette pas de... Ma mère nous a toujours appris que notre premier mari, c'est notre boulot. Et elle a peur que ce boulot ne me permette pas d'avoir un toit sur ma tête et d'avoir à manger sur la table, des choses assez basiques. Donc, comprends.
Pour l'instant, ça va bien hein, avec ce premier mari qui est la musique. dans votre album, Ina Modja, vous avez invité d'autres Maliens, comme le rappeur Oxmo Puccino, avec lequel vous avez signé un duo qui s'appelle Speeches. Écoutez.
Et ne pourra pas une autre nuit infinie qui ne nous aura pas enlevé tout. Donne-moi les mots qui se moquent de la myopie. Changerai ma coquille en gnocchi. On peut avoir les propos mais pas l'esprit. Fais couler les de l'émotion que je l'exprime. Ton oreille est acquise car je suis riche de mes speeches. Fais-moi la bise avant que tu lises Nietzsche. C'est la vie d'Alain.
Voilà, c'était un extrait de l'album Dinamoja qui s'appelle Motel Bamako. Dans un instant, justement, on va parler de l'actualité de la musique avec Élodie Suigo qui va nous emmener à la rencontre de Joyce Jonathan. À tout de suite.
France Bleu.
Francis Cabrel.
Jeudi. Francis Cabrel passe la journée sur France Bleu.
On était parti pour rester.
Dès 5h, Cabrel vous fait découvrir son dernier album, In Extremis.
C'est clair comme de l'eau, il le jure, dur comme fer.
Toute la journée, on écoute ses plus belles chansons. Et dès 19h30, Cabrel vous offre un concert unique dans France Bleu Live de 19h30 à 21h.
Francis Cabrel.
Jeudi, Francis Cabrel est sur France Bleu.
France Bleu
midi. Ensemble. Daniela Lombroso.
Avec Ina Modja et Bernard Werber, aujourd'hui c'est le moment de retrouver Élodie Suigo pour l'actu de la musique.
Avec Joyce Jonathan, oui, la fameuse.
Je ne sais pas.
Joyce Jonathan qui revient avec un nouveau single, annonciateur d'un futur nouvel album. La chanson s'appelle Le Bonheur. Alors j'ai appelé Joyce Jonathan évidemment pour lui demander ce que représentait cette chanson, parce que moi j'ai eu l'impression en l'écoutant que c'était un tournant pour elle, une nouvelle Joyce Jonathan, et qui nous invitait finalement à vivre son quotidien.
Je pense que c'est vraiment encore plus assumé progressivement au fil des albums et au fil des années, parce que je grandis. Je me sens plus à ma place et j'ose peut-être plus dire certaines choses. Et cette chanson, elle a un côté un peu bouddhiste, puisque elle parle du fait de profiter de l'instant et de se dire que le bonheur, il est dans les choses du quotidien, dans l'instant présent, et qu'il n'est pas à aller chercher des objectifs et des plans de carrière tout le temps. Et c'est simplement de se dire qu'il faut profiter des bonnes choses avec les gens qu'on aime au quotidien.
Je passe le clair de mon temps. Le jour d'avant, je passe le clair de mes nuits à repenser la vie, à passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer.
Il y a une vraie corrélation entre Joyce Jonathan et Ina Modja. Profiter de l'instant, c'est un peu votre façon d'avancer, Ina Modja.
Oui, complètement. Et puis chaque petite victoire du quotidien, c'est un vrai bonheur. Et ça s'empile et puis ça fait des plus grosses victoires à la fin de la semaine. Et oui.
Et on se dit qu'on avance. Ce bonheur, celui de Joyce Jonathan, il est palpable dans la chanson qu'on vient d'écouter, mais aussi dans le clip, parce qu'elle est également comme Ina Modja, elle fait très attention au clip. Et du coup, ce clip, c'est une immersion totale dans sa vie.
Mais c'est vraiment ce que raconte le clip. L'idée, c'était de montrer des choses du quotidien, aussi bien une séance de studio d'enregistrement qu'en studio photo. Et en fait, quasiment tout ce qu'il y a dans le clip, c'est des choses réelles. C'est des gens avec qui je travaille vraiment. On me voit chanter dans le studio où j'ai enregistré tout l'album, enfin que je suis en train de finir là actuellement. On me voit avec tous mes habits. C'est vraiment que des habits que je porte au quotidien, sauf les robes qui sont extravagantes, qui pour le coup sont un créateur. Mais donc l'idée, c'était de retracer un quotidien et de dire que voilà, il faut quand même profiter de chaque instant qu'on vit. Et j'ai l'air un peu blasée dans le clip, mais c'est justement le contre-pied du message. Et voilà, en tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à le tourner.
Joyce Jonathan et son nouveau titre, donc Le Bonheur, un nouveau single pour un nouvel album qui va bientôt sortir. Mais quelle couleur va-t-il avoir? J'ai pas résisté à lui poser la question.
C'est très chanson française, c'est dans la même lignée que mes deux premiers albums, parce que ça reste assez proche de ce que je fais, initialement au piano ou à la guitare. Mais il y a beaucoup plus d'arrangements, il y a des cordes sur quasiment tous les morceaux. Donc il y a peut-être encore plus d'harmonie. Et puis c'est un album que j'ai vraiment travaillé dans la durée, aussi bien pour composer les chansons que pour les enregistrer. Et je pense que on dit souvent pour rigoler, moi ça me fait marrer le côté oui, c'est l'album de la maturité. Et peut-être que finalement c'est celui-là. Et je pense qu'effectivement, après j'ai pas attendu de montrer qui j'étais forcément avant, mais effectivement, je peux être un peu introvertie quand je me sens pas forcément à ma place quelque part. Et là, j'ai le sentiment que dans cet album, je me sens à ma place absolument partout.
Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen.
Le point commun entre Joy Jonathan et Inamoja, c'est qu'en fait, elles grandissent, mais elles ne vieillissent pas. Et ça, c'est super énervant pour les autres.
Un jour ou l'autre, ça leur arrivera aussi. Hein. Non, mais... Ça sera le mot de la fin. Allez, on va être sympa pour terminer cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci Inamoja de nous avoir fait voyager jusqu'au Mali avec votre album Motel Bamako. Bernard Werber, le roman s'appelle Le Sixième Sommeil. Il est disponible aux éditions Albin Michel. Demain, nous recevrons la chanteuse Arielle Dombal et le cuisinier Jean-François Mallet. Alors lui, c'est très intéressant parce qu'il va vous enseigner des recettes très faciles à faire. Les recettes, en fait, les plus faciles à faire du monde. D'ici là, soyez heureux avec France Bleu.